France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité.
Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores.
Esprit, es-tu là? Enfin, je voulais dire Jean-Yves, Pat, êtes-vous là?
Je suis là.
Il est là. En fait, c'est un petit peu une histoire de voyance que vous allez nous proposer ce matin.
Pas vraiment de voyance, mais vous savez, c'est ces esprits qui veulent pas quitter. On dit toujours que parfois il y a des âmes qui ne veulent pas quitter le monde dans lequel ils étaient si bien. Eh bien, c'est un petit peu l'histoire de cette chronique ce matin. Puisque les deux dernières fois, nous nous sommes promenés dans la modernité avec Ravel, avec Gershwin, bien entendu. Et la radio s'accroche aussi. Et tiens, je ne dis pas à ressusciter les vieilles lunes, mais à continuer à faire entendre à ses auditeurs, les voix chères qu'ils ont aimées. Et peut-être aussi le répertoire qui allait avec.
Alors, à propos de voix chères, là, c'est une très belle voix que vous nous proposez ce matin. C'est celle de Rosa Poncel.
Rosa Poncel, c'est l'égérie américaine de tout le premier quart du XXe siècle. Elle est d'origine italienne, ses parents ne s'intéressaient pas du tout à la musique et ne comprenaient absolument pas pourquoi cette pauvre fille se mettait à chanter dès qu'elle entendait un son qui lui paraissait harmonieux. Et puis, bon, c'est devenu une des grandes divas new-yorkaises et de la scène américaine.
Alors, on va l'entendre dans quoi?
Alors, dans l'élégie de Jules Massenet qu'elle a enregistrée avec l'orchestre Victor et Alfred Lennart au violoncelle. C'est une merveille.
Thank you.
C'est en effet quelque chose, cette Rosa Ponzel, soprano, Jean-Yves Pat, merci. Elle chante avec donc l'orchestre Victor sous la direction de Rosario Bordone. C'est un disque Victor Tandem, enregistré dans le New Jersey en 1926.
En 1926. Donc on est au tout début de l'enregistrement électrique et on profite de cette voix dans son premier éclat. Elle était née en 1897, si mes souvenirs sont bons. Donc on a vraiment une voix magnifique et déjà qui annonce la grande carrière. Elle meurt dans les années 80.
Ah oui.
Et ça va rester une diva que le monde entier de la scène américaine va s'arracher. Ouais.
Nous sommes toujours dans un éternel retour.
Alors,
qui
revient, c'est Hérodiade de Massenet, qui est un opéra qui est un petit peu oublié, mais qui est resté à cause de quelques airs. Et puis, ce qui revient aussi, c'est les grandes questions métaphysiques et spirituelles. Et celui qui arrive, eh bien, c'est Georges Till. Alors, Georges Till, c'est le divo, si on peut dire.
Le divo, ça n'existe pas, Jean-Yves.
Ça n'existe pas, mais je trouve que ça fait masculin de diva. C'est donc une très, très grande voix de la scène française et même internationale. Et là, la curiosité, c'est que ce disque a été enregistré à Londres parce que tous les studios français n'étaient pas forcément équipés comme il fallait en micro. Et donc, on faisait facilement un voyage à Londres pour enregistrer des faces qui ensuite sont destinées plutôt au marché français. Encore que Georges Till ait vite été... de ce international.
Ne pouvant réprimer les élans de la foi.
Ne pouvant réprimer les élans de la foi, leur impuissante rage a frappé ton prophète. Seigneur, charme sur terre. Salut, salut, premier rayon de l'immortalité. L'infini m'appelle et m'éclaire. Je meurs pour la justice et pour la prison d'argile, fuyant l'humanité, je vais calme et tranquille pendant la paix d'éternité. Je ne regrette rien. Pourtant, aux faiblesses, je songe à cet enfant. Je songe à cet enfant dont les traits radieux sont présents à mes yeux. Souvenir qui m'apprête, souvenir qui m'apprête, toujours je songe à cet enfant. Seigneur, si je suis ton fils,
Waouh. Georges Till, ténor, orchestre sous la direction de Monsieur Hörter. J'aime beaucoup quand c'est orchestre sous la direction.
Oui, les étiquettes sont assez plus lapidaires. Oui.
C'est un disque Columbia Londres, 1927, et vous me disiez qu'il tournait en
80 tours minutes.
Mais comment est-ce possible?
Eh bien, c'est possible parce qu'à l'époque, il y avait des petites molettes sur le coin des phonographes, qui étaient, vous savez, des moteurs mécaniques, et on réglait alors à l'oreille les trois quarts du temps, de façon à obtenir la vaillance des aigus. Et je vous rassure, je ne suis pas votre fils.
Nous terminons avec une autre belle voix, celle de Ninon Valin.
Celle de Ninon Valin. Alors, ça a été la révélation de la belle époque, Ninon Valin, l'enfant chéri de Forêt, de Debussy et bientôt du public français. Et à mesure que sa carrière se déroule, sa voix se pare de timbres un peu plus sombres. Et je vous propose de la trouver ici, je ne dis pas à la fin de sa carrière, mais pas tout à fait loin.
Dans Carmen, en 1931.
Carmen, qui est... Alors là, pour être un éternel retour, c'est même presque une scie, à force. Et un air des cartes dans lequel on s'attendait pas trop à trouver Ninon Valin. Et vous verrez, c'est bouleversant.
Ninon Valin, cette voix de soprano parfaitement adaptée à ce rôle de Carmen, en fait.
Oui, qui a su sombrer ses couleurs et qui nous rend une présence très dramatique de cette tireuse de cartes qui voit la mort partout.
Donc c'était à nouveau un orchestre.
Un bel orchestre.
Un bel orchestre. Et sous la direction de Ruhlmann.
Oui, François Ruhlmann, qui a l'habitude de travailler depuis quasiment 1910 avec Ninon Valin. Donc c'est une histoire d'amitié en musique que l'on retrouve là.
Disque pâté, Paris, 1931.
Mais vous savez tout.
Mais on sait tout. Alors à la semaine prochaine.
Avec plaisir.